Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, au départ on l'a appelée grippe mexicaine, puis grippe porcine, avant de se rendre compte qu'elle était le fruit de recombinaisons entre des virus porcins, humains et aviaires. Je veux bien sûr parler de la grippe A. Impossible de passer à côté de la tempête médiatique qui accompagne les importantes mesures de sécurité recommandées par l'OMS. Stockage de traitements antiviraux et de masques de protection, prévision de vaccination de la population, le terme de pandémie a été employé par l'OMS en juin 2009 pour qualifier l'expansion du virus. Voici pour l'heure où nous enregistrons cette émission les derniers chiffres datés du 21 juillet 2009. L'OMS fait état de 135 000 cas confirmés et 816 décès liés à la grippe porcine à travers le monde. En France, le premier décès d'une jeune fille de 14 ans, lié en partie à la grippe A, est survenu le 30 juillet. Alors faut-il utiliser le terme de pandémie aujourd'hui ? Près de 900 morts pour 6 milliards d'habitants dans le monde pourraient faire sourire plus d'un. Surtout que pour l'instant, le virus semble plutôt bénin. Ce que redoutent les épidémiologistes, en revanche, c'est la mutation de ce virus qui pourrait avoir la méchante idée de s'acoquiner avec la grippe aviaire, par exemple, et qui donc aurait accru la virulence. Mais dans ce cas, les vaccins prévus pour septembre 2009 en France ne seront-ils pas d'ici là obsolètes ? Et puis, si la population est vaccinée, le virus ne risque-t-il pas de muter pour contourner ce fameux vaccin ? Autant de questions qui s'ajoutent à la nécessité de faire un point sur l'aspect scientifique de ce virus et de faire aussi un comparatif entre les dispositions prises en France et ailleurs dans le monde. Pour en parler avec nous, le professeur François Bricker est dans notre studio. Professeur François Bricker, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, vous êtes professeur des universités à Paris 6, chef du service de maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous êtes correspondant à l'Académie nationale de médecine. Pour commencer, si vous le voulez bien, débutons par la genèse de ce virus. D'où vient-il ? Est-ce qu'on l'a identifié ?
On l'a identifié, mais peut-être encore de façon imprécise. Il est très, très vraisemblable que ce virus a émergé sur le continent nord-américain. Certains vous diront que c'est le Mexique, puisque le Mexique a été le premier pays à signaler des cas et à déclarer qu'il était contaminé. Il l'a même fait de façon assez bruyante et en semant un certain degré d'inquiétude. D'autres vous diront que ce n'est pas exclu que ce soit sur le territoire des États-Unis, parce que quand on regarde les chiffres et quand on regarde assez finement les premiers cas, la façon dont ça s'est déroulé, il n'est pas exclu que, ou bien en Californie, ou même peut-être sur certains États nord des États-Unis, ce virus soit apparu. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été détecté pour la première fois sur ce continent nord-américain. On a même dit, peut-être à partir d'un élevage qui était sur le territoire mexicain, où il y avait des porcs. Alors, comme toujours, on aime bien retomber sur ses pieds quand on a prévu que ça devait venir des pays de l'Est, enfin de l'Est, du Sud-Est asiatique, et qu'on constate que ça vient du continent nord-américain, où on a dit que certains échanges d'animaux entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Nord pourraient avoir éventuellement, restons prudents, joué un rôle.
Pourquoi parle-t-on de grippe A ? Il existe trois types de grippe, la grippe A, B et C.
Oui, alors il y a effectivement trois types. La grippe C n'a aucune importance, des virus en général tout à fait bénins et qui donnent quelques cas sporadiques. Le B, qui est déjà plus responsable de phénomènes épidémiques, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est introduit chaque année dans le vaccin dit saisonnier. Et puis surtout les virus A. Pourquoi les virus de type A sont les plus intéressants ? C'est que ce sont eux qui donnent des phénomènes épidémiques graves, ce sont eux qui donnent des pandémies et ce sont eux qui changent le plus, qui mutent le plus et qui provoquent par conséquent le maximum de soucis pour le corps médical et donc la population.
Vous venez de parler à l'instant de grippe saisonnière. Faisons un comparatif entre la grippe saisonnière et la grippe A. Quels sont les rapprochements et puis, à contrario, les choses qui ne se ressemblent pas ?
Oui, alors il y a tout un tas de définitions là, qui sont importantes probablement à évoquer parce qu'on comprend un certain degré de confusion quand on parle de grippe. Les grippes saisonnières saisonnières, c'est-à-dire celles qu'on observe finalement globalement, assez schématiquement tous les ans, sont en général des grippes A aussi. Il y a des grippes B, mais ce sont essentiellement des grippes A. Qu'est-ce qui fait que cette grippe A peut être qualifiée de pandémique par opposition aux grippes saisonnières? Eh bien, c'est le fait que ce virus est apparu complètement nouveau, qu'il n'existait pas avant et qu'il ne dérive pas par conséquent de façon tout à fait directe d'un virus qui circulait déjà dans le monde. Et qu'à partir du moment où il est apparu, il va s'étendre géographiquement parce qu'il va atteindre une population qui ne le connaît pas, donc qui n'a aucune protection contre lui, raison pour laquelle il y a un phénomène pandémique.
Alors arrêtons-nous justement sur le terme de pandémie. Il me semblait que l'on parlait de pandémie à partir du moment où il y avait une forte taux de mortalité, de morbidité. Or, il semble, en vous écoutant, que le terme de pandémie soit en fait un peu plus subtil.
Oui, alors il y a souvent une confusion dans l'esprit des gens. Pandémie égale gravité. Eh bien, pas du tout. L'intensité du phénomène ne rentre pas dans la définition de la pandémie. La pandémie, c'est un nouveau virus de grippe avec une extension géographique suffisante. On dit deux zones géographiques de l'OMS. Mais par contre, on peut avoir une pandémie extrêmement grave, effectivement, et on peut avoir une pandémie d'une bénignité tout à fait remarquable, et personne ne s'en plaindra.
Poursuivons sur la comparaison, donc vous avez pu nous expliquer la différence entre grippe saisonnière et grippe A, celle qui nous fait tant frémir aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un comparatif qui peut être fait avec la grippe espagnole. Preuve en est, les internautes de Canal Academy téléchargent actuellement beaucoup l'émission réalisée avec Paul Léofonte. C'était plus exactement une retransmission d'une séance de l'Académie nationale de médecine. Donc, une séance consacrée à la grippe espagnole et l'histoire de la grippe espagnole. Alors, pareil, quelles sont les ressemblances et les dissemblances avec la grippe espagnole?
Alors, c'est vrai que la grippe espagnole a beaucoup marqué les historiens de la grippe. Et la crainte que l'on a, c'est de voir réapparaître ce phénomène avec un virus qui serait aussi agressif que celui qui a été observé en 1918. Alors, effectivement, il y a des ressemblances et c'est ça qui peut paraître éventuellement inquiétant. En 1918, c'était déjà un virus H1N1, comme celui qui circule actuellement, est un virus H1N1. Ce virus a également transité par le porc, et surtout, il est né, ou il est apparu au moins, autant qu'on puisse reconstituer les choses, sur le continent nord-américain, à l'opposé des autres pandémies qui sont arrivées un peu plus tard dans le siècle dernier, 1957, 1968, où la pandémie est née en Asie du Sud-Est. Le troisième élément, c'est que cette grippe, qui était déjà nord-américaine, a commencé par un premier pic relativement modeste au printemps de l'année 1918. Évidemment, là, nous sommes en fin de printemps, presque début d'été 2009, lorsqu'on constate le début de l'épidémie. Donc, légèreté apparente, et puis nouvelle poussée en 1918 au moment de l'automne, où là, cette fois-ci, l'agression du virus va être et beaucoup plus intense et beaucoup plus grave. Et puis, peut-être un dernier élément qui est relatif, c'est qu'en 1918, les sujets jeunes ont été les principaux concernés, comme ce que l'on observe actuellement. Mais il faut bien reconnaître que tous les phénomènes pandémiques avec des nouveaux virus atteignent souvent plus préférentiellement les sujets jeunes.
Alors aujourd'hui, les mesures sont-elles disproportionnées? Quand on voit que donc le gouvernement prévoit donc 94 millions de doses de vaccins, et j'espère d'ailleurs qu'on va venir à cette question de vaccins, mais également, je crois, 1 milliard de masques de protection. Est-ce que, à travers ces chiffres, on n'essaie pas aussi de calmer le jeu et voilà de calmer les jeux à travers ces chiffres importants?
Oui, je pense qu'il y a un préalable pour répondre à votre question, c'est que la société a beaucoup évolué et elle a évolué depuis peu d'années. C'est uniquement dans ces dernières années qu'on a pris conscience qu'avec les moyens modernes, avec les possibilités qu'on avait de surveiller les phénomènes infectieux, il était possible d'envisager différemment la prise en charge d'un phénomène épidémique. Si on ajoute à ça la mondialisation qui oblige tout le monde à être concerné par un phénomène infectieux, si on ajoute à ça le principe de précaution cher à la France, eh bien, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on annonce un phénomène, il y a obligation de réaction. Et les autorités de tutelle se doivent d'organiser le système pour qu'on réduise le risque, qu'on fasse tout ce qui est possible pour se protéger et réduire. Et on verra bien que tout au long de la prise en charge de ce phénomène infectieux et par l'OMS au niveau international, mais aussi au niveau français, ministère de la Santé, ministère de l'Intérieur, tout est fait justement pour envisager la lutte comme si c'était ou si ça devait devenir un phénomène particulièrement important. Alors à partir de là, on décline les moyens et les achats qui accompagnent. Vous avez dit achat de masques, oui. Alors on peut faire beaucoup de remarques sur l'utilisation des masques, mais c'est un moyen efficace s'il est bien porté, dans les conditions bien précises à définir. Oui, achat d'antiviraux, le Tamiflu, le fameux Tamiflu. Oui, achat de commandes, plus exactement vaccinales. Et là, c'est sûrement un point important. Si l'État ne faisait pas cela, on le lui reprocherait. Alors dire qu'on en fait beaucoup, éventuellement, car il faut ajouter que tout ceci n'est valable que si le plan est mis en place avec un certain degré de souplesse pour s'adapter à l'intensité du phénomène. En France, dès que l'annonce a été faite, le plan a été déclenché. Il a été déclenché selon ce qui était prévu, un plan qui était essentiellement organisé sur une préparation anti-H5N1, c'est-à-dire la grippe aviaire, dont on se disait et dont on se dit encore que si elle survenait, elle pourrait être particulièrement grave. Donc on avait un plan rigoureux avec une montée en puissance des actions. Or là, on s'est aperçu que le phénomène était finalement bénin, en dépit de ce qu'avaient dit les Mexicains au départ. À la réflexion, très vite, les premiers cas observés ont montré que c'était bénin. Et donc il fallait, au contraire du renforcement peut-être prévu, décélérer l'action, assouplir les mesures pour s'adapter à l'intensité de l'agression.
Ce qui est curieux, c'est que donc l'OMS a déclaré l'alerte de niveau 6. La France est encore restée au niveau 5 avec donc les mesures dont vous venez nous expliquer le détail. Que va-t-il se passer quand la France va passer au niveau 6? Parce qu'il semble qu'en restant déjà à l'alerte niveau 5, elle a déjà fait presque le maximum.
Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a là, dans ces degrés, une relativité des choses à bien souligner. Ce sont des possibilités de moyens qui sont ainsi définies par le niveau auquel on se situe. Ajoutez à cela des raisons psychologiques. Quand le phénomène est bénin, dire à tout le monde « nous sommes en niveau 6, qui est le plus élevé », les gens s'inquiètent. Or, effectivement, à ce jour, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Par conséquent, que les autorités de tutelle aient souhaité rester au niveau 5, ça ne me paraît pas déraisonnable. Alors si on passe au niveau 6, qui est le niveau décrété sur le plan international par l'OMS, ça veut dire qu'a priori, on peut utiliser tous les moyens qu'on souhaite, qui ont été analysés, définis, pour lutter contre le phénomène épidémique. Donc autrement dit, c'est la boîte à outils, et on utilise dans la boîte à outils ce que l'on pense devoir être nécessaire de prendre en charge.
Avant de marquer notre pause et de parler des vaccins dans la deuxième partie de l'émission, quel est notre regard sur l'étranger? Par exemple, comment travaillent les États-Unis? Comment travaille le service hospitalier des États-Unis, par exemple, le service médical des États-Unis?
Alors, il y a des différences, effectivement. Bon, vous savez que la France est partie très en pointe pour préparer un plan de lutte contre ce type d'infection. D'autres pays, ensuite, ont un petit peu pris en route, dont les États-Unis, avec un peu de retard. Et il y a quand même des différences. Et la rigueur du plan français n'est pas de façon parallèle à ce qu'elle est aux États-Unis ou même surtout en Angleterre. Donc nous, on a un système qui a tendance à bloquer un petit peu, à repérer immédiatement tous les cas. Et les autres, peut-être, n'ont pas eu cette volonté absolue de freiner le système. C'est peut-être la différence et c'est peut-être ce qui nous est finalement un peu retourné contre nous, puisqu'on a dit « je vous exagérez, c'est peut-être pas aussi utile d'hospitaliser tout le monde, c'est peut-être pas nécessaire de faire des prélèvements aussi intenses pour compter le nombre de cas et guider la suite des événements ». Alors que certains pays ont laissé un peu, à toute proportion gardée, j'allais dire filer l'épidémie, mais en tout cas de prendre les mesures sur un mode peut-être un peu moins intense.
On marque une courte pause si vous voulez bien, professeur François Bricaire, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Il est l'un des plus grands anthropologues du XXe siècle. Nous célébrons son entrée dans la Pléiade. Canal Academy rend hommage à Claude Lévi-Strauss. Qui se cache derrière le scientifique? Écoutez les témoignages de personnalités l'ayant connu, tels que André Comte-Sponville, Philippe Descola et Jean-José Marchand. Retrouvez les thèmes forts qui entourent depuis toujours le célèbre anthropologue. Et téléchargez dès maintenant les émissions en libre écoute.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie du professeur François Bricaire, correspondant de l'Académie nationale de médecine. Dans cette deuxième partie d'émission consacrée à la grippe A, venons-en au vaccin. On en parle tous les jours, des doses de vaccins, 94 millions, 120 millions, donc les chiffres augmentent. Et puis on parle aussi des personnes qui vont être vaccinées en priorité. Alors, avant de vacciner ces gens, est-ce que le vaccin existe et à partir de quelle souche on travaille, vu qu'on imagine très bien que la grippe, comme la grippe saisonnière, a un fort pouvoir de mutation?
Oui, alors le problème de la vaccination est un problème en fait très difficile. Je ne voudrais pas rentrer dans des détails trop importants, mais pour essayer de schématiser les choses. La première chose, c'est d'abord que devant tout phénomène infectieux épidémique, surtout lorsqu'il est de nature virale, ce qui est le cas de la grippe, la meilleure façon de lutter pour une population, c'est d'avoir un vaccin. Le deuxième élément, c'est qu'un vaccin contre un virus pandémique est souvent un vaccin un peu difficile à faire parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la population n'est pas protégée et qu'il faut vraisemblablement une stimulation antigénique pour obtenir le degré de protection souhaité. Alors déjà, il faut savoir que très récemment, les laboratoires avaient travaillé sur le virus H5N1 pour préparer un vaccin, ce qui a permis d'avancer beaucoup les connaissances et la réalisation de ce qu'on a appelé un vaccin pré-pandémique. Alors, dès qu'il a été constaté l'apparition du virus H1N1, dans une certaine mesure, les laboratoires, ou certains d'entre eux, ont tout de suite utilisé ce qu'ils avaient en connaissance et en changeant un petit peu leur fusil d'épaule. Ce qui fait qu'actuellement, il y a un vaccin qui est en préparation, qui ressemble un petit peu à ce qu'ils avaient préparé pour la grippe aviaire. Et puis l'objectif, c'est d'affiner les choses pour finalement faire un vaccin qui soit parfaitement adapté au virus H1N1 qui circule actuellement. Alors à partir de là, à la question « est-ce qu'on aura du vaccin ?», la réponse est oui. La difficulté, c'est de savoir quelle sera exactement la composition du vaccin et deuxièmement, s'il peut arriver à temps et en quantité suffisante pour assurer une protection des populations. Car si la France commande 94 millions plus une trentaine de millions de doses de sécurité, si les Anglais commandent 131 millions de doses, si les Belges en commandent de X millions, etc., c'est très bien, à condition que l'industrie puisse le livrer. Et sachant qu'il y a d'autres pays qui vont demander, bien évidemment. Donc vous voyez qu'on est sur un phénomène complexe. Est-ce qu'il faut un vaccin qui comporte ce qu'il est convenu d'appeler un adjuvant, qui va stimuler l'immunité, mais qui entraîne des incertitudes sur la tolérance, mais qui, à contrario, permet de fabriquer beaucoup plus de vaccins. Est-ce qu'on va faire un vaccin sans adjuvant, qui automatiquement aura moins de problèmes de tolérance, mais qui peut être moins stimulant? Deuxième question, celle-là, elle est quasiment réglée. Faut-il une seule injection ou deux? Et malheureusement, on s'aperçoit que vraisemblablement, il faudra deux injections pour assurer une bonne protection, ce qui complique les choses en termes de stratégie et qui complique les choses en matière de nombre de commandes de doses vaccinales. Bref, on est encore avec quelques points d'interrogation. Si on ajoute à ça qu'un vaccin doit automatiquement être vérifié dans son efficacité et dans sa tolérance, surtout par exemple pour les enfants, si on ajoute à ça qu'il faut des franchissements de barrières administratives, et en particulier l'obtention de ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, eh ben, est-ce que le vaccin arrivera à temps par rapport au risque de voir apparaître la deuxième partie de l'épidémie pandémique, si toutefois elle doit arriver vraiment? Donc vous voyez, il y a cette espèce de course de vitesse pour être sûr de pouvoir protéger les populations dans le temps. Alors à partir de là, il faudra choisir peut-être qui on vaccine. L'idéal, me direz-vous, c'est de vacciner tout le monde. Bon, ça c'est la solution de
facilité. Il y a toujours une structure pyramidale. Hein.
Oui, ouais. Absolument. Mais à condition d'avoir suffisamment de doses. Et comme les doses vraisemblablement ne seront pas livrées tout en même temps, il va falloir commencer par certaines personnes qu'on jugera prioritaires.
Notamment les personnes qui ont des maladies respiratoires.
Par exemple. Alors ce sont les sujets fragiles, effectivement, maladies respiratoires, insuffisance cardiaque, tous les sujets immunodéprimés. Donc toutes les personnes qui se défendront mal contre la grippe ou qui feront des complications de la grippe doivent être protégées prioritairement. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les corps de santé, toutes les personnes chargées des systèmes d'urgence, sapeurs-pompiers, le SAMU, etc., devront être vaccinées prioritairement. Et puis ensuite, il y aura une certaine catégorie de personnes, donc les personnes plus âgées mais qui n'ont pas de facteur de risque particulier. Et puis comme ça, on s'achemine progressivement vers un ensemble plus large de la population. Je n'ai pas parlé des enfants parce que sur le plan théorique, il faudrait les vacciner pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est dans les milieux des enfants que le phénomène infectieux s'étend plus rapidement. On le voit très bien à travers les alertes qui ont été constatées dans les écoles, dans les colonies de vacances maintenant, absolument. Donc par conséquent, il y a une justification là. Et puis deuxièmement, parce que les enfants sont plus fragiles, on l'a évoqué tout à l'heure, les sujets jeunes, donc il y a une nécessité de les protéger. Mais on ne peut le faire que si le vaccin est vraiment démontré comme non seulement efficace, mais bien
toléré. Donc des essais cliniques.
Exactement. Donc vous voyez que tout ça est assez complexe. En fonction de la surveillance, de l'évolution des choses, les autorités du ministère de la Santé en particulier géreront et organiseront les séances de vaccination.
Il semble, mais je demande l'avis du spécialiste que vous êtes, mais que actuellement, cette fameuse grippe A est assez bénigne. Donc, ce vaccin contrecarrerait une grippe bénigne.
Alors oui, tout à fait pour le moment. Si le virus reste ce qu'il est, il devrait rester responsable d'une pandémie bénigne. C'est ce qu'on observe actuellement. Même si, il ne faut quand même pas l'oublier, toute grippe comporte son contingent de formes sévères, de formes graves potentielles, donc de formes mortelles. Mais si majoritairement les formes sont bénignes, voire même d'ailleurs asymptomatiques, sans aucun symptôme, eh bien écoutez, tant mieux, ça continuera. Alors faut-il effectivement faire toute cette préparation et tous ces achats pour combattre et stopper une épidémie bénigne? Ça peut se discuter, mais je pense que de toute façon, il y a justification à combattre un phénomène infectieux. Mais maintenant, le problème est surtout celui-là. Si jamais le virus bouge, mute, pour acquérir des capacités d'agressivité plus grandes, alors là, il y a une justification absolue à avoir un vaccin. Alors c'est là où vous allez me dire, mais si le virus a muté...
Et oui, ce vaccin-là ne sera complètement inutile,
alors,
malheureusement.
Non, inutile probablement pas. Il faudrait vraiment que le virus mute tellement qu'il n'y ait plus de communauté, comme on dit, antigénique entre le virus et le vaccin pour qu'il y ait un échec. Ça serait vraiment une grande malchance. Il restera suffisamment de communauté entre le virus muté et le vaccin pour qu'il reste une protection possible. Donc, je crois là qu'il ne faut peut-être pas être trop pessimiste et alerter de façon aussi intense sur des risques. Tout est possible en matière de grippe, c'est vrai. Mais enfin, ça, c'est au-delà de cette remarque un peu facile. Je crois que la préparation du vaccin devrait, si elle est utilisable à temps, arrêter ou freiner un phénomène épidémique.
Pour terminer sur cette question de vaccin, vacciner toute une population ne pourrait-il pas à terme, pardon si ma question paraît bête, mais ne pourrait-il pas à terme renforcer ce virus qui aimerait bien contrecarrer ce vaccin pour toucher sa cible ?
Ben, y a pas de question bête et je crois qu'effectivement, tout phénomène peut aboutir à des effets que l'on n'attendait pas ou qu'on ne souhaitait pas. Normalement, à partir du moment où un virus est combattu et ne circule plus, il n'y a pas trop de problèmes et il peut très bien se modifier, se structurer pour devenir effectivement après un peu plus agressif.
Alors quel est votre sentiment, vous, sur la question du dossier, le journaliste parle comme ça, du dossier de la grippe A. Est-ce que vous trouvez que la partie médiatique en fait peut-être un peu trop ? Quel est votre sentiment, ne serait-ce qu'au niveau du gouvernement, au niveau des médias et au niveau scientifique, au niveau médical ?
Je commencerai par dire que communiquer en matière de grippe, c'est extrêmement difficile pour une raison essentielle, c'est que les connaissances sur l'évolution d'un virus de grippe sont parfaitement incertaines. Si on savait comment les choses allaient se passer, on serait beaucoup plus à l'aise pour faire des prévisions qui soient dignes de ce nom. Or, malheureusement, nous nous trompons toujours. Toujours l'expérience l'a montré, et par conséquent, faire des prévisions satisfaisantes et convenables sur un phénomène dont on ignore les trois quarts des éléments, ça devient extrêmement aléatoire. La deuxième remarque, c'est qu'à partir de cette constatation, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette nouvelle prise en charge des phénomènes infectieux épidémiques, eh bien, les autorités de tutelle sont, pour elles, obligé, à mon avis, de gérer à un haut niveau de sévérité ou en termes d'extension ou de gravité, comme vous voudrez, peu importe, de gérer de façon à ce que les populations qui sont exigeantes, et en France, on est particulièrement critique et exigeant, et ne puissent pas dire « vous n'avez rien fait, on vous avait prévenu et vous n'en avez pas tenu compte ». Donc ça me paraît une réaction tout à fait normale, et je pense qu'on a des ministres de la Santé qui s'en sont préoccupés, aussi bien le ministre précédent que la ministre actuelle. Donc par conséquent, de ce côté-là, moi, je trouve que c'est très bien. Alors, il y a quand même des nuances. Ça n'est pas une raison pour, je dirais, amplifier les alertes, les craintes et les exprimer qui entraînent automatiquement des phénomènes et d'inquiétude et éventuellement de rejet, ce qui est aussi embêtant.
On pourrait avoir cette impression de crier au loup.
Voilà.
Et qu'au final, quand le loup arrive, plus personne ne s'en préoccupe.
Alors c'est là où la gestion avec les médias est parfois un peu délicate. Il y a des médias qui comprennent bien cette difficulté d'expression, puis il y en a d'autres qui préfèrent jouer la corde habituelle. Si c'est grave, c'est intéressant. Si ça n'est pas grave, ça devient beaucoup moins valable en matière de message. Donc, il ne faut pas hypertrophier le phénomène. Il faut être conscient des risques. Les risques, ils existent, mais les risques graves, s'ils sont incontestables, ne sont pas obligatoires. Donc, quand on dit qu'on surveille, quand on dit qu'on regarde que maintenant, dans l'hémisphère sud, où c'est l'hiver, on va voir comment évolue le virus, s'il bouge ou s'il ne bouge pas, entre parenthèses, pour le moment, il ne bouge pas. C'est vrai, c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on observera une éventuelle reprise telle qu'on la craint, eh bien, on agira en conséquence en matière de mise en place des moyens de défense. Si l'agresseur est fort, il faut se donner les moyens. Alors, c'est quoi la fermeture des écoles, le plan d'activité tel qu'il est prévu dans les entreprises pour maintien d'activité, en même temps que tenir compte de l'absentéisme qui sera obligatoire, structurer les hôpitaux, accueillir et organiser l'accueil dans les hôpitaux, ce qui sera difficile, ce qui sera compliqué, peut-être. Et puis, si l'agresseur est mineur, eh ben, on ne va pas s'encombrer d'un certain nombre de mesures contraignantes qui, à la fois, gêneraient nos concitoyens et entraîneraient un certain discrédit ou même des contestations justifiées en disant « Attendez, vous n'allez pas nous empêcher de circuler, nous empêcher de faire ci ou ça, alors que l'agresseur est modeste ».
Et entre médecins, j'imagine que c'est un sujet de discussion qui est souvent, souvent développé.
Oui, alors à partir du moment où les difficultés sur un phénomène existent, il y a des divergences de vues ou des analyses peut-être un peu plus nuancées. Certains ont des craintes qu'ils expriment très fort, d'autres sont au contraire beaucoup plus restrictifs. Et puis, il y a peut-être des gens un peu comme moi qui essaient d'être dans le milieu. C'est peut-être pas le plus courageux, mais c'est en tout cas, moi, mon sentiment, c'est que l'inquiétude n'est jamais bonne conseillère et qu'il faut être conscient, encore une fois, du risque. Et puis, très important, bien organiser la relation entre médecine de ville et médecine hospitalière. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on est passé de la surveillance hospitalière pure à une prise en charge maintenant depuis le 23 juillet de cette grippe en ville, et c'est très bien. Et il faut maintenant bien articuler les choses de façon à ce que la ville s'occupe des formes les plus habituelles et l'hôpital des formes qui se compliqueraient ou deviendraient graves.
Pour terminer, je cite le professeur Bernard Debré, qui a reproché au gouvernement d'en faire trop, estimant que le virus était pour l'instant un peu moins dangereux que la grippe saisonnière dans l'hémisphère sud. Ça, bien sûr, peut-être que ça sera amené à se développer et à devenir un peu plus délicat à traiter.
Oui, moi, je souhaite que le professeur Debré ait raison le plus longtemps possible. Eh bien, si on en fait trop, tant mieux, à la limite. Tant mieux, mais il ne faudrait pas qu'on puisse dire qu'on n'en a pas fait suffisamment et qu'on a mis en difficulté la santé d'un certain nombre de personnes.
Merci professeur François Bricaire. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Paris 6, chef du service de maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci et puis peut-être
Merci.
À bientôt pour une prochaine émission.
Avec plaisir.
Au revoir.